Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
8h10 en temps universel, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes vendredi, profitez-en, dans 30 minutes maintenant ce sera la libre antenne et vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Vous êtes encore nombreux ce matin à réagir au climat politique au Côte d'Ivoire où les principales figures de l'opposition sont pour l'instant inéligibles alors que nous sommes à 6 mois de la présidentielle. On nous appelle du Sénégal où de nombreux médias vont être suspendus pour non-conformité au Code de la presse. Des réactions également après les meetings organisés mercredi au Burkina Faso en soutien au capitaine Traoré. Et je vois que plusieurs d'entre vous souhaitent prolonger notre débat d'hier sur la très possible dissolution de tous les partis politiques au Mali. Les sujets en tout cas ne manquent pas. On vous attend au standard. Vous êtes les bienvenus. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Et comme tous les jours, on vous lit également sur nos réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. N'oubliez pas, dans un petit quart d'heure, comme tous les vendredis, Jessica Taïeb nous rejoindra pour sa chronique « Un œil sur les réseaux ». Jessica nous parlera du sujet qui fait débat, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et après l'avoir écouté, vous aurez très certainement envie, vous aussi, de prendre la parole ce matin sur RFI. Mais d'abord, ce sont vos questions sur l'actualité. On va commencer en parlant football. Abotsi, bonjour.
Bonjour RFI, bonjour Juan Gomez.
Et merci de nous accueillir à Lomé, dans la capitale togolaise. Vous avez des questions?
Merci.
Sur l'incident survenu lors de la finale de la Coupe d'Espagne opposant le Real Madrid au FC Barcelone.
Oui. Antonio Rudiger a été suspendu pour 6 matchs après avoir jeté des projectiles contre l'arbitre de la rencontre, de cette rencontre. À ce sujet, j'ai deux questions. La première. Pourquoi seul Rudiger est sanctionné alors que dans les images, on voit d'autres joueurs lancer des projectiles contre l'arbitre?
Ouais, Rudiger qui aurait pu écoper jusqu'à 12 matchs de suspension. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour Abotsi.
Journaliste au service des sports de RFI, les images ont fait le tour du monde. Des images incroyables.
Ah oui, c'est très très rare de voir des joueurs se mettre en colère comme ça, et notamment Rudiger, qui est quand même un joueur d'un certain niveau, d'une certaine expérience. Il a des centaines de matchs derrière lui. Et, en fait, pour resituer un petit peu, l'Allemand venait de prendre un carton rouge pour une contestation. Il s'est alors mis, mais dans une colère, mais abyssal, qui dit aussi beaucoup de l'enjeu de ce match, une finale de Coupe du Roi contre le grand ennemi Barcelone et dans une saison où le Real Madrid est loin, loin, loin d'être souverain. On le voit, Rudiger retenu par un membre du staff, le défenseur qui avait déjà montré d'ailleurs une grosse agressivité hein, quand il était sur le terrain. Là, il était sur le banc. On le voit se saisir d'une poche de glace, celle qu'on utilise, vous savez, quand
on se blesse.
Quand on prend un coup, quelque chose, pour faire dégonfler rapidement l'hématome. Donc, c'est des poches de glace qui sont, mine de rien, assez conséquentes. Et on le voit la déchirer. Les glaçons tombent par terre. Il est toujours ceinturé, Rudiger. Là, d'abord, il y avait un membre du staff, puis après plusieurs. Puis Ferland Mendy, le défenseur français, qui vient s'en mêler. Il ramasse quelque chose, a priori un glaçon qui venait de tomber, et il le jette vers l'arbitre sans l'atteindre, d'ailleurs.
Parce l'arbitre que
ça aurait
l'a
pu,
précisé après,
ça
hein,
aurait
en disant
pu coûter très, très, très
j'ai
cher.
Évité le glaçon.
Oui, ça aurait pu coûter très, très, très cher à Rudiger, encore plus cher si le glaçon avait effectivement touché l'arbitre. Et d'après les images qui ont été vues et revues, vous le disiez, dans le monde entier, mais aussi par la commission de discipline de la fédération, cette commission, elle a prononcé une sanction de 6 matchs à l'égard du défenseur allemand.
Ouais, Rudiger, qui finalement s'en sort pas trop mal.
Oui, parce que vous le disiez, il risquait 12 matchs de suspension, ce qui est mine de rien énorme. 6 matchs, c'est beaucoup. Après, le joueur expérimenté qui est Rudiger a su s'excuser sur les réseaux sociaux dans la foulée de la finale.
Il a reconnu que son comportement était absolument inexcusable.
Voilà, donc ça a aussi cette reconnaissance de responsabilité a forcément un peu atténué la sanction. Il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir été sanctionné, hein, parce que Lucas Vázquez, le milieu de terrain qui a lui aussi été expulsé, lui il a pris 2 matchs pour avoir protesté contre une décision en pénétrant de plusieurs mètres dans le terrain de jeu et en faisant des gestes de désaccord. Ça, c'est ce qu'indiquait le rapport de l'arbitre et qui vaut une suspension à Lucas Vázquez. Celui qui s'en sort bien finalement, c'est Jude Bellingham, l'anglais, puisque son exclusion n'a pas suivi d'une suspension. Son carton rouge a même été annulé après le visionnage des images de la fin du match.
Voilà pour les explications à votre première question, Absobi. Quelle est la suite ? On vous écoute.
Alors, blessé, Rudiger ne peut déjà pas jouer. Quand est-ce que sa suspension prendra effet ?
Si j'ai bien compris, elle est immédiate, sa suspension.
Le fait qu'il soit blessé ne rentre pas en ligne de compte, en fait. Il est suspendu après ce match. La suspension, elle court sur les 6 prochains matchs du Real.
Donc jusqu'à la fin de la saison.
Jusqu'à la fin de saison et le début de la prochaine. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer la première journée de la saison prochaine. Ça ne change rien à sa situation personnelle, puisqu'Abotil disait, Rudiger, il est blessé. Il a été opéré mardi de ce genou gauche qu'il gênait depuis déjà plusieurs semaines. Il est rentré dans la phase de convalescence avant la rééducation. Donc c'est impossible de le voir d'ici la fin de la saison sur les terrains, ni en Liga, ni au Mondial des clubs auquel participera le Real cet été, ni même en Ligue des Nations, alors que l'Allemagne, la sélection de Rudiger, jouera la demi-finale de la compétition contre le Portugal le 4 juin.
Voilà Abotsi pour les explications d'Antoine Grenier. Êtes-vous satisfait ?
Oui, je suis satisfait, merci.
Et bonne journée à vous. Vous êtes supporter du Real ou pas du tout, Abotsi ?
Pardon ?
Êtes-vous supporter du Real Madrid ?
Non,
vous avez le droit de ne pas l'être. Bon, bonne journée. Merci de nous écouter à Lomé au Togo. À très vite, Antoine Grenier.
À très vite,
Antoine. Journaliste au service des sports de RFI. 10h17 à Paris. On repasse au standard avec des questions maintenant sur la guerre en Ukraine. Bonjour, Hulbert.
Bonjour, Juan Gomez. Et bonjour aux milliers d'auditeurs des radios internationales et bienvenue à votre invité.
Merci à vous de votre fidélité. Vous étiez déjà en attente hier pour poser vos questions concernant la guerre en Ukraine. Comme promis, on vous a donc rappelé ce matin. Nous sommes à votre écoute. Allez-y.
Oui, Juan. J'ai lu sur RFI que la Corée du Nord a reconnu avoir envoyé ses troupes aux côtés des forces russes dans la région du Kursk. Pourquoi la Corée du Nord n'avait pas voulu reconnaître jusqu'à présent sa participation à la guerre en Ukraine ?
Ouais, bonne question que vous posez. Non seulement la Corée du Nord a fini par reconnaître la présence de soldats sur le front ukrainien, mais Vladimir Poutine a lui aussi reconnu que des soldats nord-coréens ont participé au combat aux côtés des troupes russes. Bonjour Théo Clément.
Bonjour.
Chercheur indépendant, spécialiste du développement économique de la Corée du Nord, c'est donc la fin d'un secret de Polichinelle.
C'est la fin d'un secret de Polichinelle. Alors les indices ont été accumulés depuis plusieurs mois. Au début, tout le monde était un peu sceptique, mais effectivement, les choses se sont précisées et ça a été mis sur le devant de la scène, à la fois par la Corée du Nord et par la Russie. Donc alors la très bonne question de Hubert, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement maintenant ce secret de Polichinelle a été complètement officialisé et vanté. Je pense que c'est parce que ça marque le passage d'une phase de coopération entre la Corée du Nord et la Russie qui était plutôt expérimentale. On testait un modèle qui fonctionne, à la fois sur la question militaire mais aussi sur des questions économiques. Et on passe aujourd'hui à une phase qui est un peu plus structurée. Donc alors, évidemment, donc c'est des questions militaires, des questions de guerre. Donc il y a effectivement un secret général qui s'impose un peu sur ce genre de choses. Ça a aussi été perçu un peu comme un aveu de faiblesse de la part de la Russie de se pencher vers des alliés qui sont aussi, isolés, même si j'aime pas trop le terme, que la Corée du Nord pour faire face à l'invasion ukrainienne en territoire russe.
Oui, puisqu'il a fallu. La Russie a eu besoin, quand même, si on en croit les services de renseignement sud-coréens, de quasiment 18 000 soldats à ses côtés pour essayer de récupérer la région de Koursk.
Ouais, il y a eu un peu la course à l'échalote au niveau des données qui ont été faites par les services de renseignement sud-coréens et ukrainiens. Bon, c'est des sources qui sont valables comme les autres, effectivement, mais en l'absence de données contradictoires, je m'abstiendrai de.
De les commander.
De les commander ou de les valider.
Ouais,
après, pour les Nord-Coréens, ça a été aussi difficile d'avouer, entre guillemets, parce que la Corée du Nord a un discours, se présente, alors aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de sa population, comme une puissance pacifique, etc. Et évidemment, les militaires nord-coréens qui partaient sur le front revenaient. Certains ne sont pas revenus, certains sont revenus en piteux état, et en Corée du Nord, l'information circule. Donc il arrive un moment où, si cette phase expérimentale venait à se structurer, se pérenniser, les Nord-Coréens devaient absolument commenter dessus pour expliquer auprès de leur propre population qu'est-ce qui se passe et dans quelle direction le pays se dirige.
Et Théo Clément, il est important de souligner aussi le calendrier, c'est-à-dire que cette reconnaissance, elle intervient au moment où les Russes ont quasiment récupéré l'ensemble de la région de Koursk. Donc on communique finalement sur une victoire.
On communique sur une victoire, c'est intéressant. On communique aussi à un moment où la Corée du Nord et la Russie sont en train d'annoncer des gros plans de coopération économique. L'ouverture d'infrastructures, des ponts terrestres qui vont connecter la toute petite frontière de 19 km qu'il existe entre la Corée du Nord, et la Russie. Donc oui, ça permet de faire d'une pierre deux coups, à la fois montrer que la coopération fonctionne, montrer que la coopération entre la Corée du Nord et la Russie est là pour durer, et aussi envoyer peut-être un signal à l'administration Trump, qui a eu des velléités d'ouverture et d'engagement avec la Corée du Nord lors de la précédente administration, de montrer que maintenant la Corée du Nord a un partenariat privilégié avec la Russie et que les États-Unis vont devoir se retrousser les manches s'ils veulent faire quoi que ce soit dans la région.
En tout cas, Poutine a remercié Kim Jong-un pour, je cite, l'exploit des soldats nord-coréens qui ont contribué à la libération de la région de Koursk. Vous parliez des victimes tout à l'heure, Théo Clément, des victimes nord-coréennes. Kim Jong-un lui a promis d'ériger un monument à Pyongyang, donc dans la capitale, en mémoire donc de ces soldats tombés au front. Merci infiniment, Théo Clément. Hubert, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que vous êtes satisfait?
Je suis satisfait, Juan, merci beaucoup.
À Théo Clément surtout, qui est chercheur indépendant, spécialiste du développement économique de la Corée du Nord. 8h22 en temps universel, la libre antenne c'est dans 20 minutes, hein. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. On repasse d'abord au standard avec d'autres questions, des questions sur ce rapprochement qui se confirme de plus en plus entre le Maroc et les trois pays de l'AES. Bonjour Kodjo.
Bonjour RFI, bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, le Maroc a de nouveau proposé au Mali, au Niger et au Burkina Faso de leur offrir un accès à l'océan Atlantique. Et quels sont les intérêts du Maroc à impulser cette initiative? Et concrètement, quelle infrastructure faudra-t-il développer pour concrétiser ce projet?
Il en faudra effectivement des infrastructures pour connecter ces trois pays, direction le Maroc et direction notamment le port de Tanger. Bonne question, Kodjo. Bonjour, Sidi Kaba.
Bonjour, Juan. Bonjour à votre auditeur.
Merci infiniment de prendre quelques instants ce matin pour répondre à Kodjo. Vous êtes le président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. On vous doit cet ouvrage publié aux éditions Impact Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Le sujet est sur la table déjà depuis plus d'un an, Sidi Kaba. J'ai le souvenir que le roi du Maroc avait déjà proposé au Mali, au Burkina Faso et au Niger de leur donner l'accès à l'océan Atlantique. Il est de nouveau à l'ordre du jour puisque le roi du Maroc a reçu en début de semaine les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. Pourquoi le Maroc propose à ces pays sahéliens qui sont enclavés cet accès à l'océan Atlantique?
Non, pour les pays sahéliens, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est un enjeu stratégique parce que les trois pays sont enclavés, ils n'ont pas de port, ils n'ont pas de façade maritime pour leur importation et leur exportation. Ils dépendent pour cela des pays de la CEDEAO avec lesquels les relations ne sont pas forcément très bonnes en ce moment. Donc cet accès à l'océan Atlantique est une très très grande opportunité pour eux. Pour le Maroc, les dividendes sont à évaluer au plan diplomatique, politique et stratégique. Il n'y a pas d'enjeu économique à proprement parler, mais c'est une sorte de soft power qui permet au Maroc de consolider sa présence et son influence déjà très, très importante dans cette partie d'Afrique de l'Ouest, puisqu'on sait que le Maroc est déjà présent à travers ce réseau bancaire, à travers sa compagnie nationale. Mmh. Et cette offre-là permet de renforcer son influence stratégique et diplomatique dans un contexte de rivalité avec le rival éternel qui
l'Algérie,
est l'Algérie.
Évidemment. Et les relations entre l'Algérie et les trois pays de l'AES se sont considérablement dégradées ces derniers mois.
Absolument. Le timing n'est pas, à mon avis, n'est pas à négliger. Au moment où les relations avec l'Algérie se dégradent au point où les trois pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs à Alger, les relations avec le Maroc se développent à travers cette offre d'accès à l'océan Atlantique. Et le roi même, pour montrer un peu l'importance de cette initiative pour le Maroc, le roi a reçu les ministres que vous avez évoqués.
En début de semaine. Sédik Abba, en deux mots, ce projet va nécessiter des infrastructures. Et donc, qui dit infrastructure, dit beaucoup d'argent.
Oui, c'est ça le vrai défi. À mon avis, c'est le vrai défi parce qu'aucun des trois pays n'a de frontière avec le Maroc. Il faut forcément passer par la Mauritanie. Et les distances sont longues, de 2000 à 2300, peut-être même 3000 kilomètres à parcourir. Donc, il faut un réseau routier qui soit adapté et il faut un parc automobile qui puisse assurer. Il faut beaucoup de semi-remorques pour faire ce trajet dans un sens comme dans l'autre. Ou à défaut, il faut construire un réseau de chemin de fer qui va coûter beaucoup trop cher.
Et visiblement, pour l'instant, tout ça n'a pas encore été évoqué par les principaux concernés. Merci infiniment, Sédik Abba, de votre disponibilité, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. 10h26 à Paris. Bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Dans un petit quart d'heure, je le rappelle, ce sera la Libre Antenne. Et peut-être que les auditeurs auront envie de réagir à ce que vous avez pu constater tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Une opération d'influence sans précédent pour soutenir le capitaine Traoré, président de la transition au Burkina Faso, une vaste campagne avec en point d'orgue l'organisation il y a deux jours de plusieurs meetings à travers le pays. D'ailleurs, le 30 avril a été décrétée journée mondiale de soutien au Burkina Faso.
Eh oui, impossible cette semaine d'aller sur TikTok, X ou Facebook sans tomber sur une vidéo de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Et certaines dépassent le million de vues. Hein. Sur TikTok, le format est toujours le même. Des internautes parlent face caméra et décrivent à coups de superlatifs l'action politique héroïque, selon eux, du président de la transition. Alors, dans la vidéo d'un TikToker américain qui a fait plus d'un million de vues, on peut entendre dire sur un ton menaçant, maintenant, ça suffit. S'il arrive quoi que ce soit à ce grand président africain, vous entendrez parler de nous. Et ce qui rend cette tendance inédite, hein, c'est qu'elle dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Parmi ces relais, on retrouve de nombreux Américains et des ressortissants de pays africains anglophones. Le rappeur ghanéen Sarkodi, l'un des artistes africains les plus influents, a tweeté vendredi dernier « Que Dieu protège Ibrahim Traoré », une publication vue plus de 5 millions de fois. Et sur X, le capitaine était encore au top des sujets les plus commentés hier, avec plus de 70 000 tweets.
Effectivement, c'est considérable. Cette vague de soutien, Jessica Taïeb, elle a commencé il y a maintenant un mois, quasiment jour pour jour, c'était le 3 avril, après les déclarations d'un général américain.
Quand le général Langlais, patron de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a accusé le capitaine Traoré de détourner les réserves d'or du pays pour assurer sa propre protection. Une critique proférée devant la commission du Sénat américain qui suscite énormément de réactions. Le 15 avril dernier, Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères burkinabé, a publié un communiqué dans lequel il proteste officiellement contre les propos du général Langlais qu'il juge regrettable.
Et pour démontrer que le peuple est uni derrière le capitaine Traoré, la junte a donc organisé, je le disais en préambule, ce mercredi, une grande journée à travers le pays, journée mondiale de soutien au Burkina Faso. Comment réagissent les internautes?
Alors, je vous lis quelques commentaires. L'Anglais est le général noir utilisé par les États-Unis pour attaquer le Burkina Faso et celui-ci qui espère encore plus de ferveur. Soutenir IB, c'est soutenir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, toute l'Afrique. C'est soutenir la lutte pour l'indépendance véritable. Et l'analyse de cet internaute, les réseaux sociaux ont réussi à unir les Africains pour la première fois dans l'histoire. Oui. Merci Ibrahim Traoré.
Bon, tout le monde n'est pas unanime. Hein. Certains s'inquiètent, certains s'interrogent sur cette journée, cette mobilisation.
Et oui, l'intensité du phénomène suscite des craintes. Alors je vous lis quelques commentaires. C'est dangereux d'aimer aveuglément un chef d'État. On peut l'apprécier, mais ça ne doit pas empêcher de lui demander des comptes sur ses actions. Celui-ci que j'ai lu sous le tweet du rappeur Sarkodi, que Dieu protège Traoré, mais le peuple, qui le protège? On ne sacrifie pas un peuple pour une personne ou un groupuscule de personnes. Et je termine avec cette question. Le gouvernement a-t-il sponsorisé cette propagande? C'est comme si Traoré payait des influenceurs.
Vous avez certainement un point de vue, vous qui venez de nous écouter. Eh bien, appelez-nous, vous pourrez vous exprimer dans la libre antenne dans tout juste 10 minutes. Jessica Taïeb, merci.
Merci.
Un œil sur les réseaux sociaux à réécouter sur l'application.